Bonjour. Allez. Bonjour, ok. Quand même. Je sais que c'est le premier culte, mais faut un peu d'enthousiasme. Je dois m'installer un petit instant. Certains. Tout fonctionne bien. Ok. Bon, j'aimerais vous remercier pour l'invitation de venir ici et de partager avec vous. C'est un plaisir. Ça fait, en fait, c'est pas ma première fois à l'église. Je suis venu en 95. Donc, pour ceux qui se rappellent de ce moment-là, j'ai donné cours hier à l'Institut biblique belge et j'ai parlé de quelque chose qui a eu lieu en 93 et un étudiant m'a dit. J'étais pas né. Est-ce que tu peux bien sortir le couteau que vous avez mis dans le dos, Sam? Ok. Bon, donc ça fait un bout de temps, mais j'entends régulièrement les nouvelles de Wallway et ce que le Seigneur fait ici. En plus, je vois quelques visages que.
Salut!
Quelques visages que je connais, donc c'est vraiment un plaisir d'être ici parmi vous. Et j'aimerais donc vous remercier pour cette invitation. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous certaines choses qui se trouvent en Éphésiens 2. Et Éphésiens 2, on va voir la deuxième moitié de ce chapitre. La première moitié de ce chapitre, ça touche sur les questions de qu'est-ce qui se passe au niveau de salut, au niveau individuel. Mais la deuxième partie, et c'est ça qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe un peu plus au niveau de groupe, niveau communautaire. Alors, c'est ça que nous allons voir et on va toucher sur plusieurs points là. En fait, la chose qui me frappait le plus en voyant tout ce passage, c'est la question de avant et après. Avant et après, parce que c'est ça que Paul souligne dans ce texte, c'est les choses comme ils étaient avant et qu'est-ce que Christ a fait, et puis le résultat, qu'est-ce qui est actuellement après. Alors, vous avez sûrement vu des choses, et puis on peut passer au suivant, vous avez sûrement vu des choses avant et après, les pubs, là, quelqu'un qui a bien réussi, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais c'est quand même impressionnant. Il y a d'autres choses qui sont un peu plus comiques, avant et après, ça m'a fait rigoler, quelqu'un qui s'est rasé bien. Et puis des choses qui sont un peu plus sérieuses, ça c'est en fait des vues de satellites après le tsunami de 2004, une ville avant et après, et c'est juste dévasté. On voit que la force là de vague a tout dévasté. Mais on peut voir, c'est clair, il y a certains événements, enfin, dans la vie individuelle, peut-être un bon régime ou l'exercice faisait perdre du poids, et aussi d'autres événements qui a détruit, dans ce cas, toute une communauté. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est un avant et après. Et alors, c'est. Enfin, ça touche, comme j'ai dit, le niveau communautaire plus large même. C'est pas juste niveau individuel. Et la première chose, on peut mettre, c'est le texte d'Éphésiens 2, 11 à 12. Et on peut le lire ensemble. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors, là, c'est l'avant. Et ce n'est pas une belle image. Il y a pas mal de problèmes qui sont cités là. Avant, nous étions, alors, sans Christ. Christ, pour les Juifs, si on prend le mot en hébreu, c'est Messie. Alors, c'est d'où vient cette idée, le Messie? Pour les Juifs, c'était l'idée que on attendait celui qui allait venir, celui qui était dans la ligne de David, celui qui allait nous sauver. Mais pour ceux qui sont mentionnés là, dans la première partie, c'est clair que Paul parle aux non-juifs. Et aux non-juifs, on était sans cet espoir. On était sans l'espoir du Messie. Quand on voit toutes ces choses, par exemple, le païen dans la chair, traité d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis. Donc, ça parle clairement des non-juifs. Alors, on était, et encore, je parle pour la plupart, je crois, ce matin, ce sont probablement les non-juifs, peut-être il y a des juifs parmi nous aussi, mais pour les non-juifs, c'était le cas qu'on était sans aucune idée de ce que c'est cet espoir de Messie qui allait venir. C'était le cas. Donc, sans Christ, sans droit du cité d'Israël. Donc, on faisait pas partie de cette œuvre de Dieu qui avait lieu dans l'Ancien Testament. On n'était pas citoyen. Comme disait Stephen, je suis pas. Vous entendez sûrement un léger accent qui n'est pas tout à fait belge. Je suis d'origine américaine. Et donc, quand on habitait, j'étais 11 ans ici à Bruxelles, et je me rappelle encore. Comme je ne suis pas citoyen, il fallait passer chaque année dans le bureau d'étrangers. Et il fallait attendre dans une file. Et c'était marrant. Après un temps, ils ont changé. Ils ont une bonne idée. On va, en fait, passer avant pour avoir un rendez-vous. Donc, au lieu d'attendre dans une file pendant 2 heures, on allait attendre 2 heures pour avoir le rendez-vous. Puis, quand on venait pour le rendez-vous, c'était encore 2 heures pour attendre. Donc, magnifique, l'administration. Ça, c'est partout le même. Donc, c'était clair pour moi, je ne suis pas citoyen ici, je dois passer par ces obstacles pour habiter ici. Par contre, je me rappelle, une fois, nous sommes allés à Paris pour ma fille, pour son passeport, il fallait renouveler le passeport. Et là, nous sommes allés à Paris, à l'ambassade américaine, là, et nous sommes arrivés, il y avait toute une longue file, pour tous ceux qui voulaient les visas ou avaient d'autres questions administratives. Et puis, il y avait une autre file. Là, c'était pour les Américains. Et là, on passait directement, on parlait avec quelqu'un, on avait un service. Et ça fait quand même plaisir. C'est pas comme quand j'étais étranger en Belgique. On est mieux servi comme ça. Et pour nous, avant Christ et avant l'œuvre de Christ, pour ceux surtout qui n'étaient pas juifs, on était en dehors de tout ça. On était en dehors. On n'était pas dans ce programme dont Dieu travaille. Et en fait, on peut même regarder dans nos Bibles. Bon, si je fais ça, oui, plus ou moins juste rapidement. Nous avons tout ça. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et c'est là où Dieu travaillait avec dans le sens premier, avec Israël. Bien sûr, il y avait d'autres qui ont eu cette interaction avec Dieu, mais en gros, c'est l'œuvre avec Israël. Et tous les autres étaient en dehors de ça. Donc, on n'était pas citoyens. Et puis, il dit, étrangers aux alliances de la promesse. Ceux qui étaient en dehors d'Israël, oui, tous ces promesses, vous connaissez peut-être les alliances qui étaient faites, l'alliance avec Moïse, l'alliance avec David, la nouvelle alliance qui était promise. Il y avait toutes ces promesses, toutes les choses qui allaient venir, mais pour ceux qui sont dehors d'Israël, il n'y avait pas ces promesses, on n'était pas conscience de ça. Donc, en fait, finalement, on était sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'était l'état avant. En fait, Dieu travaille, il travaille là, en Israël, et tous ceux qui ne sont pas juifs étaient en dehors de ça. Ça me fait penser à une expérience que j'avais ici en Belgique. Vous connaissez peut-être, on peut passer au prochain, vous connaissez ça, le stade Roi Baudouin à Bruxelles. Et j'avais un ami qui m'a proposé, il avait des billets pour un match pour l'équipe belge contre Lituanie, c'était pour qualifier pour le mondial. Donc c'était vraiment un match important. Et cet ami, il avait 2 billets donc pour moi et mon fils. Et ils nous ont invités de rejoindre au stade là pour regarder le match. Super, on était content d'être là, mon fils était tout content. Le problème, c'était que à ce moment-là, ils ont installé plus de sécurité autour du stade. Donc, pour aller jusqu'à l'entrée, il fallait déjà avoir le billet. Il fallait passer par un contrôle. Mon ami m'attendait à l'entrée, mais on ne pouvait pas aller jusqu'à l'entrée. Il fallait passer d'abord par le contrôle. Et c'était, mes amis, c'était avant les GSM. C'était avant les téléphones portables. Vous imaginez? Ça existait à ce moment-là. Il y avait des dinosaures par terre et tout, mais c'était avant les GSM. Et donc, je ne pouvais pas contacter mon ami. Et on a fait tout le tour du stade en essayant de voir est-ce qu'il y a moyen d'entrer pour aller jusqu'à là. Et je ne pouvais pas le contacter. Je ne pouvais pas entrer. En fait, le match a commencé. On entendait les gens qui criaient à l'intérieur. Et nous, on était à l'extérieur. Finalement, on a dû rentrer. Mon ami, il se sentait vraiment coupable, donc il nous a donné plusieurs billets dans les mois qui suivaient. Donc, en fait, finalement, c'était bien passé pour nous. Mais c'était ça, en fait, la situation dont Paul parle. Dieu travaillait dans un endroit à l'intérieur. Nous étions sans billets à l'extérieur. Pas moyen d'y entrer. Alors, c'était la situation avant. Ça, c'est quand on parle avant et après. La situation avant, c'était on n'était pas invité, on n'était pas, on n'avait pas la possibilité d'y entrer. Donc, juste quelques idées comme application. On peut mettre le suivant. On peut remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est une chose. Parce qu'il faut se rappeler, ce n'est pas notre droit d'avoir une relation avec Dieu par le moyen de Christ. C'est pas, on n'est pas digne de ça, on ne le mérite pas. Ça, c'est un don. Et de faire partie du programme de Dieu dans ce monde, c'est une grâce. Donc, il faut se rappeler de temps en temps où nous étions avant Christ. On était, pour le résumer, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Deuxième, on peut penser à ceux qui ne font pas encore partie du peuple de Dieu. Ceux qui sont sans Christ actuellement, c'est pas juste, oui, ils font pas partie de notre club, ils ratent cette communauté, ce qu'on vit ensemble et des belles activités qu'on font. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ils sont sans espérance, sans Christ dans le monde. Ils sont perdus, en fait. Et ça devrait être une motivation pour nous, pour justement l'évangélisation, pour aller vers nos amis, la communauté autour, pour annoncer cette bonne nouvelle. Parce que, si on lit cette section, ils sont vraiment, vraiment perdus. C'est pas juste une différence d'opinion, eux, ils ont le leur et nous avons le nôtre. Ils sont perdus sans Christ. Et c'est ça que nous voyons dans ce texte et dans ce passage. Mais, merci Seigneur, il y avait quelque chose qui s'est fait qui a changé tout ça. Et ça, c'est le texte suivant. Enfin, je vais lire le 13 à 18. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi, avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme, un nouveau, en faisant la paix. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alors, le verset central ici, il me semble, c'est le premier. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. On était loin, mais maintenant, on est proche, on est fait invité dans ce corps. Il y avait un événement qui a tout changé. Vous savez, il y a parfois des jours qui marquent l'histoire. En fait, j'ai regardé une série, et c'était les jours qui ont changé le monde. Et justement, ils prenaient certains moments, des jours importants pour... surtout pour les Américains, on pense qu'il y avait le 7 décembre 1941, c'est l'attaque à Pearl Harbor, et ça a mené les États-Unis d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc avant, il y avait des hésitations, on ne faisait pas, mais un jour a tout changé. On peut penser aussi, on parle de le 11 septembre 2001, les attaques terroristes, et ça aussi a changé toute une optique. En fait, je me rappelle quand nous sommes venus en Belgique la première fois, on a quitté les États-Unis, et c'était en 93. En fait, mes parents, mon frère, les amis sont tous venus à l'aéroport jusqu'à la porte d'entrée de l'avion. Vous imaginez? Maintenant, c'est inimaginable, mais à l'époque, on pouvait aller jusqu'à l'avion pour dire au revoir et... c'était impressionnant, mais ça a tout changé. Enfin, la question de sécurité, on imagine ça comment, et maintenant, on met toutes sortes de protections pour essayer de protéger les gens. Donc, un jour peut tout changer. Et si c'est vrai pour par exemple, le 11 septembre, combien de plus pour le jour où Jésus est mort sur la croix? Ça a tout changé. Il y avait cette situation avant. On était loin, on était sans espérance, sans Christ dans le monde. Mais grâce à cette œuvre de Jésus sur la croix, c'est le jour où tout a changé. Alors, on peut passer à la suite. À l'œuvre de Christ, ce qu'il a fait, d'abord, il y a ce mot « paix » qui revient régulièrement dans ce passage qui parle de ce que Christ a fait. Il dit « c'est lui notre paix ». Le paix, encore, ce n'est pas juste l'absence de conflit, mais c'est plutôt une bonne relation. Et c'est lui, notre paix. Ce n'est pas l'évangile, il faut se rappeler, ce n'est pas juste quelques mots, mais c'est plutôt une relation. C'est une relation personnelle avec Dieu. C'est lui, notre paix. Et aussi, c'est marqué « faisons la paix ». Aussi, il est venu annoncer la paix. Et puis, oui, on va arrêter là. Donc, toute cette idée de paix, l'évangile et cette bonne nouvelle, ça donne la paix avec Dieu. Dieu qui nous aime, il n'est pas... grâce à l'œuvre de Christ, Dieu veut établir cette relation avec nous et cette paix. C'est pas le but de Dieu, c'est pas de nous punir, de nous éloigner, de nous, mettre toujours dans les situations difficiles que nous méritons, mais il veut la paix avec nous. Et cette œuvre de Christ a accompli cette paix que nous pouvons avoir avec le Créateur de l'univers. Et en plus que ça, c'est paix avec Dieu, mais aussi paix avec les autres. C'est niveau vertical de paix, mais aussi niveau horizontal. Avec nos frères et sœurs, on peut avoir la paix. Et il a fait ça parce qu'il a détruit le mur. Il disait, détruisons le mur de séparation, l'inimitié. Alors, le mur, et là on peut passer au suivant, il y avait justement dans le temple à Jérusalem un mur qui séparait les juifs des non-juifs. Les non-juifs pouvaient avoir accès au temple, mais jusqu'à un certain point. Et puis, il y avait un mur. Et après ça, c'était seulement les juifs qui pouvaient aller plus loin. Et puis, bien sûr, dans le temple même, c'était que des prêtres qui pouvaient y entrer. Mais on a trouvé, en fait, ça. C'est un pierre qui était mis sur le mur qui était le mur de séparation entre les non-juifs et les juifs. Et sur cette pierre est écrit « Aucun étranger entra l'enceinte de protection autour du sanctuaire, et celui qui est capturé alors aura seulement lui-même à blâmer pour la mort qui suit. » Bon. Si vous pensez chez vous mettre un petit panneau pour empêcher les gens d'entrer, vous pouvez peut-être ou peut-être pas. Non, c'est peut-être un peu extrême. Mais vous voyez, quand on parle de mur de séparation, justement, il y avait littéralement un mur. Quand on pense à l'accès à Dieu, il y avait un mur qui séparait les non-juifs des juifs et qui séparait les non-juifs de cet accès au centre du temple. Mais Jésus-Christ a détruit cette mur. Détruisons le mur de la séparation. Et encore plus tard, il dit, faisons mourir par elle l'inimitié. Aussi, il dit, annuler la loi avec ses commandements et leurs dispositions. La loi continue d'être une réflexion du caractère de Dieu, mais elle n'a plus la fonction de séparer les peuples comme avant. Maintenant, en Christ, les peuples, tous ceux qui suivent Christ, sont mis ensemble. Et l'image qu'il emploie pour ça, c'est un seul et nouveau homme. On peut passer au suivant. Vous aimez bien mon dessin, c'est très détaillé. On a l'idée, il tourne vers cette idée du corps. Un seul homme nouveau. Et il disait, les deux en faisant qu'un, créé en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau. Et ça, c'est une chose, en fait, magnifique que Christ a fait. Bien sûr, enfin, il y a ce côté de salut et relation avec Dieu, mais dans cette partie du chapitre, on parle de comment il a réconcilié les peuples différents en lui. Et donc, il n'y a pas en Christ un corps, je sais pas, un corps wallon, un corps flamand, un corps américain, un corps français, un corps africain, un corps asiatique. Non, il y a un seul corps en Christ. Et ça accueille, en fait, tous ceux qui se sont tournés vers lui. Je crois que... Oui, donc on peut passer... Ça, c'est toutes ces phrases qui reviennent et qui soulignent, et il revient à ce point. Il a créé qu'un seul corps. Et donc maintenant, il n'y a pas de séparation entre juifs et non-juifs. Et en Christ, il n'y a pas de séparation entre n'importe quel groupe des peuples. En Christ, nous sommes un. En fait, je crois qu'un des plus grands témoignages que l'Église peut avoir, c'est l'unité entre frères et sœurs. En fait, c'est ça que ce monde cherche. On regarde partout, il y a l'ONU qui fait des projets pour essayer de ne pas avoir des guerres ici et là. On fait des projets pour essayer de vivre en paix, avoir une certaine unité. Et ça, c'est bien. Bon, il faut soutenir ce genre de projet. Mais ça reste quelque chose qui est imposé de l'extérieur. Comment avoir une vraie unité entre des gens d'arrière-plan différents? Je crois que le seul vrai moyen, c'est Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, nous trouvons notre identité primaire. Donc, qui suis-je? Quelle est mon identité centrale? En fait, si je suis en Christ, ça c'est mon identité première. Je suis enfant de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ. Et toutes les autres choses, mon arrière-plan, ma race, ma langue, ma culture, ça, c'est les choses secondaires. En fait, je partage plus avec quelqu'un, je parle pas chinois, s'il y avait un chinois à côté de moi, un frère qui est chrétien, je partage plus avec lui que je partage avec quelqu'un avec qui j'ai grandi et dans la même rue, on a assisté les mêmes écoles. Mais si cette personne-là n'est pas en Christ, on ne partage pas ce point central de mon identité. Et en plus, je vais passer l'éternité avec ce frère avec qui on a peut-être tout à fait une autre culture ou langue ou quoi que ce soit. Donc, où trouver dans notre monde aujourd'hui la vraie unité? Ça, c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et en plus, c'est une bonne chose pour nous, mais aussi c'est un témoignage qui va vers le monde. Jésus a dit... À ceci, enfin, vous connaissez sûrement ces passages. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est justement ça qui met les gens, enfin, les croyants ensemble, et c'est comme ça que le monde peut dire, ah, ça c'est les disciples de Jésus parce qu'ils s'aiment les uns les autres. Même plus loin, ils disent en Jean 17, afin qu'ils soient parfaitement un, pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Jésus donne en fait un critère au monde de savoir si Dieu a envoyé Jésus, et ça c'est l'unité des croyants. Alors, c'est ça que Christ a fait pour nous. Il a créé monde, enfin, dans ce monde qui est tellement divisé par justement toutes sortes d'identités différentes, il a fait que ça soit possible de se réunir dans un seul corps grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix. Donc ça, c'est le... on a vu l'avant, l'état grave de tous ceux, les non-juifs, tous ceux qui sont dehors. Maintenant, en Christ, on est tous réunis. C'est l'œuvre de Christ. Alors, c'est quoi l'après? Il y a quelques mots dits sur ça. Je vais lire 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alors, quelle est notre situation après? Comme individus, nous sommes des concitoyens avec des saints. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous faisons partie de ce peuple avec lequel Dieu travaille. Il y a une place pour nous dans ce programme de Dieu dans le monde. Je me rappelle, j'avais un prof, quand j'étudiais pour être missionnaire, il était anthropologue. Et il donnait son témoignage dans le cours, et il disait qu'il a grandi dans une famille chrétienne, il a assisté en fait à une université chrétienne, et il voulait justement être missionnaire, aider les missionnaires, donc il faisait des études plus loin, et il faisait un doctorat en anthropologie. Mais pendant ce temps, il vivait une vie assez en rébellion contre Dieu, et finalement, il s'est éloigné de Dieu et il est devenu en fait un anthropologue. Il avait un rôle, un prof à une université et tout, mais vraiment éloigné de Dieu. Et c'était en fait un autre anthropologue qui travaillait avec les missionnaires, qui commençait d'être un ami avec lui, qu'il a invité d'aider avec certains projets, qui aidait les missionnaires. Et après un certain temps, il est revenu au Seigneur. Et il disait... Et avec les larmes aux yeux, il disait, je pensais pendant un temps que j'avais tout gâché, que j'avais tout perdu. Qu'en fait, comme je me suis éloigné de Dieu, je vivais un peu comme je voulais, je pensais, je suis allé trop loin. Mais non seulement Dieu, il m'a accepté, quand je me suis repenti, Dieu m'a accepté, non seulement dans la famille de Dieu, mais maintenant il m'emploie pour former des missionnaires. En fait, il a une place pour moi dans sa famille. Il y a une place pour moi dans son programme. Et ça, c'est quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et je ne sais pas où vous êtes ce matin, si vous êtes proche, si vous êtes loin, mais Dieu a une place pour vous dans son programme. Vous pouvez, en tournant vers lui, il peut vous employer vos dons, vos capacités, comment il vous a créé pour sa gloire. Il y a une place pour vous, pour tous ceux qui tournent vers lui. Alors, je trouve ça fort. Nous sommes des concitoyens. Nous sommes des membres de la famille. On ne doit plus aller au bureau d'étranger pour avoir renouveler notre carte d'identité pour être membre du corps de Christ. On fait partie, on est citoyen. Donc ça, c'est comme individu. Mais aussi, il y a comme groupe. Nous sommes maintenant... édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Alors, aussi cette idée de temple du Seigneur, une habitation du Saint-Esprit. Bien sûr, ce n'est pas un bâtiment physique. Ça, je pense que c'est l'église de Wallway, ce n'est pas exactement la même architecture, mais peut-être on a des projets, je ne sais pas. c'est pas un bâtiment physique. Et ce n'est pas le temple comme dans le passé, même magnifique comme elle était. Ça, c'est une image des archéologues et des historiens pensent que c'était plus ou moins ça. Mais si belle que ça soit, ce n'est pas... le temple aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas physique, ce n'est pas ce bâtiment ici. C'est super d'avoir un bâtiment. Mais le temple aujourd'hui, c'est l'Église. C'est les gens, c'est les croyants. Et c'est Dieu qui habite en nous. Donc, aujourd'hui, le temple, c'est beaucoup plus grand. C'est mondial. C'est partout. Et ça grandit chaque jour. Alors, j'ai fait ça à mon église. Je ne connaissais pas les membres ici, mais vous pouvez mettre votre nom dans une de ces pierres. Vous êtes un de ces pierres dans ce temple qui grandissent mondialement. Donc, si c'est... je connais Alexandre, et je connais Solveig et Stéphane et d'autres. Donc, chacun est un pierre dans ce temple. Nous sommes appelés à édifier, à faire grandir ce temple. Alors, est-ce que vous êtes une pierre qui édifie? Vous êtes, c'est-à-dire vous utilisez ce que Dieu vous a donné pour construire l'Église? Et on peut poser la question, comment savoir? Comment savoir est-ce que je suis un pierre qui édifie? Je peux vous poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus à Christ grâce à votre témoignage? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont plus proches à Dieu grâce à votre ministère? C'est une question à se poser régulièrement. En fait, le cours que j'ai donné hier, c'était dans l'après-midi, c'était 1 et 2 Thessaloniciens. Et Paul dit, il dit aux Thessaloniciens, vous êtes ma couronne au jour du Seigneur. Le jour que Jésus revient, Paul peut dire, voici Jésus, ce que j'ai fait. Les Thessaloniciens, voici comment j'ai employé ce que tu m'as donné pour ta gloire. Bien sûr, on n'est pas tous Paul, on n'a pas implanté toutes les églises et fait tout ce que Paul a fait, mais Dieu nous a donné quand même des dons, il a donné des capacités pour sa gloire. Et il faut poser la question, est-ce que j'emploie ça pour sa gloire? Est-ce qu'il y a du fruit quelque part dans ma vie où je peux dire, le jour où Jésus revient, voici ce que j'ai fait? Alors, pour terminer et pour revoir les applications qu'on a vues, quelques questions à poser. D'abord, première chose, remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. On peut dire merci Seigneur, on peut chanter ses louanges parce que il y avait un avant, mais merci Seigneur, il y a un après. Il y a le maintenant, ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est première chose. On peut remercier Dieu. Deuxième, pensons à ceux qui ne font pas encore partie du peuple de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de lui, qui sont séparés de Dieu, qui sont sans espérance, sans Christ dans ce monde. Ce n'est pas juste, comme j'ai dit, un club dans lequel ils sont pas membres, mais il y a des conséquences éternelles. Il y a aussi des conséquences temporelles, terrestres, maintenant aussi, une vie loin de Dieu. C'est triste. Alors pensons à eux et agissons. Et finalement, êtes-vous une pierre qui édifie? Est-ce que vous êtes en train d'aider la construction de ce temple? Pas temple physique, mais temple spirituel, c'est mondial, mais il faut travailler là où on est, à Woluwe. Est-ce que vous êtes en train d'édifier ce temple? Alors, je vais vous laisser avec ces questions et je vais prier afin que Dieu nous encourage et avec ces passages, que nous puissions, même cette semaine, mettre ces choses en pratique. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as donné. Et Seigneur, je prie que tu, cette semaine, que ton esprit nous parle, nous convainc et nous aide et nous donne la force et le courage de mettre en pratique les choses que nous avons vues ce matin. Et nous te remercions, Seigneur, pour cette révélation qui est ta parole et pour la puissance qu'elle a dans nos vies. Et je prie tout cela, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.